Mandrin. Deuxième partie, chapitre 3. Une rude bataille. Il était environ midi lorsque Mandrin, Tieno et ses compagnons arrivèrent au château de Bon Repos. Mandrin était rayonnant. Après avoir sauvé Tieno, ainsi que le lui ordonnait sa conscience, il allait pouvoir maintenant donner libre essor aux élans de son cœur. Vite, il sauta à bas de son cheval et pénétra en coup de vent dans la maison sans s'occuper de personne. Dans le vestibule, il se heurta à un domestique qui lui remit une lettre en disant « De la part de Madame Mandrin ».
« Qu'est-ce à dire ? »
s'écria le capitaine en pâlissant. Fébrilement, il décacheta la missive sur laquelle Nicole avait tracé cette adresse « Au capitaine Mandrin en son château de Bon Repos ». En proie à une agitation qui n'allait pas tarder à se transformer en une immense douleur, il lut ce qui suit. « Mon cher Louis, ne crois pas que je t'ai abandonné. Plus que jamais je t'aime et je veux être à toi. Mais je me suis mis dans la tête de faire de toi un maréchal de France. » Aussi viens-je de partir pour Fontainebleau demander ta grâce au roi. Ne t'inquiète pas de moi, je reviendrai vite, très vite, et, avec l'aide de Dieu et de ma cousine, la marquise de Pompadour, je suis sûr que j'atteindrai mon but et que nous serons heureux. Je t'embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. À bientôt et à toujours. Ta femme pour la vie, Nicole Mandrin.
« Ah non, ce n'est pas possible !» cherchait à se rassurer Mandrin. « C'est une plaisanterie qu'elle a voulu me faire pour me punir de l'avoir quitté hier soir !»
Et s'adressant au domestique, qui semblait attendre ses ordres, il s'écria
« Qui t'a remis cette lettre ?»«
C'est Madame Mandrin. »«
Quand cela ?»«
Ce matin, à 6 heures. »«
Où est-elle »«
Elle est partie. »«
Avec qui ?»«
Toute seule. »«
Tu te moques de moi, maroufle !»
« Non, mon capitaine, je vous assure. » Déjà, Mandrin, plantant là le laquais de M. de Voltaire, s'élançait dans l'escalier et en franchissait les degrés en quelques bonds. Puis, traversant le couloir, il ouvrait la porte de sa chambre, où il entrait comme un furieux, bousculant les meubles, renversant le lit, ouvrant les placards, fourrageant la garde-robe. Maintenant, il en avait la certitude. Nicole lui avait dit la vérité. Alors, au paroxysme de la colère, il dégringola les escaliers 4 à 4 et bondit dans la grande salle où il se trouva en face de Voltaire, qui parlait à Tieno et que le major et le brutal venaient de lui présenter. Mandrin marcha vers l'écrivain d'un pas précipité. Puis, lui tendant la lettre de sa femme, il s'écria d'une voix frémissante.
« Lisez, monsieur de Voltaire !»
Voltaire, d'un rapide coup d'œil, parcourut le message. Puis, le tendant à son interlocuteur, il fit simplement
« Eh bien, oui. »« Elle se moque de moi !»
rugit le révolté.
« Mais non !»« Et tout ceci n'est qu'un prétexte pour se sauver et rejoindre le fermier général. »«
Détrompez-vous. Nicole vous aime.
Que dis-je ? Elle vous adore.
Hier, je l'ai vue pleurer en pensant au danger que vous courez. En agissant de la sorte, je vous jure qu'elle n'a obéi qu'à l'élan de son cœur généreux, qui vous appartient tout entier. »
« Étiez-vous au courant de ce projet ? »
interrogea âprement le capitaine.
« Oui. »
Et sur un ton de reproche, Mandrin scanda. « Pourquoi ne l'en avez-vous pas dissuadé ? » Voltaire fut sur le point de répondre.
« C'est moi qui lui en ait donné l'idée.
Mais sentant bien qu'un tel aveu allait provoquer une de ces tempêtes qu'il ne croyait pas opportun de déchaîner, il répondit avec un sourire plein de bienveillance et de finesse
« Vous savez bien, mon cher Mandrin, que ce que femme veut,
il fallait la retenir de force.
C'était bien difficile.
L'enfermer à clé dans sa chambre,
elle serait passée par la fenêtre. »
Mandrin garda un instant le silence.
on eût dit que les arguments de Voltaire l'avaient un peu calmé. Soudain, une flamme terrible illumina son regard, et s'adressant à ses compagnons, il lança d'une voix éclatante
« Camarades, en route !»«
Où allez-vous » interrogeait Voltaire.
« À la poursuite de Nicole !»«
Mandrin, mon ami, je ne vous reconnais plus !» Alors, avec toute l'autorité de son génie, Voltaire fit gravement « Et votre œuvre, la ferez-vous passer après votre amour ?» Ces paroles, tombant d'une telle bouche, firent sur le justicier une impression décisive. Instantanément, les muscles de son visage se détendirent, la lueur fulgurante de ses yeux s'éteignirent, et, avec un accent d'incomparable noblesse, il s'écria
« Vous avez raison, monsieur, et je vous remercie de m'avoir rappelé à mon devoir. Que Nicole agisse donc à sa guise. »
« Ne soyez pas irrité contre elle, reprenait Voltaire. Elle est parfaitement capable de vous rapporter votre grâce.
Je ne suis pas à vendre.
Vous en serez quitte pour la refuser. » Mandrin eut un sursaut qui prouvait que sa colère n'était pas entièrement calmée.
Voltaire se garda bien d'insister, se promettant toutefois, au moment opportun, de chercher à convaincre le révolté et de lui faire comprendre qu'il était préférable pour lui de ne point mépriser le pardon royal et d'en tirer au contraire un grand parti pour le triomphe de ses idées. Il le laissa donc quitter la salle et gagner la terrasse. Mandrin, en effet, éprouvait le besoin de demeurer seul. Assis sur un parapet qui dominait la route, il resta immobile. Depuis un instant déjà, Thiénot, qui n'avait rien perdu de la scène qui s'était déroulée entre le philosophe et le capitaine, s'était glissé sur la terrasse. Abrité derrière un massif, il observait attentivement Mandrin, s'efforçant de deviner ce qui se passait en lui et guettant l'occasion de lui prouver, en cette heure de si cruelle épreuve, qu'elle était là et que, plus que jamais, il pouvait compter sur son attachement fidèle. Mais Thiénot n'avait d'ailleurs pas tardé, en présence de celui qu'elle aimait, à redevenir Jeanne d'Estenave, c'est-à-dire une femme éperdument éprise. D'ailleurs, en ce moment, tout ne semblait-il pas favoriser son secret dessein de s'emparer à son tour exclusivement de ce cœur torturé? Le départ de Nicole ne lui donnait-il pas un important avantage ?
Capitaine, fit-elle d'une voix dont elle cherchait à atténuer le frémissement. Mandrin eut un léger sursaut, et, apercevant Thiénot, il fit d'un air sombre
« Ah, tu étais là.
J'ai songé que je ne vous avais pas suffisamment remercié. » Mandrin eut un geste nerveux, agacé.
« Vous m'en voulez ? Reprenait Thiénot.
« Pourquoi ?
Reprenait le capitaine d'une voix rude.
« Parce que c'est à cause de moi que tout est arrivé.
Qu'est-ce qui est arrivé ?
Mais que votre femme...
Ah, « Laisse-moi en paix avec toutes ces histoires !»
interrompit le capitaine avec fougue.
« Et si tu veux connaître tout le fond de ma pensée, sache, Thiénot, que je suis assez maître de moi pour ne pas m'attarder à des regrets puérils et à des sentiments inutiles. Il n'y a plus ici... que le capitaine Mandrin. »
Et sans rien ajouter, il s'éloigna, laissant Jeanne d'Estenave convaincue qu'il venait de prononcer contre Nicole une condamnation immuable. Alors, en proie à une sorte de délire, elle se précipita vers le château, laissant échapper de ses lèvres brûlantes
« Maintenant, j'en suis sûr, il m'aimera !»
Mandrin, quelque peu réconcilié avec lui-même, par l'énergie morale dont il venait de faire preuve, et persuadé que désormais rien ne pouvait le détourner du chemin qu'il s'était tracé, éprouvait le besoin de détendre ses nerfs et de rafraîchir son sang en une promenade solitaire à travers cette belle montagne où il aimait à s'isoler. Emporté par cet élan qui lui faisait oublier ses angoisses d'amant, il franchit la grille du château et s'engagea dans un chemin qui conduisait à la montagne. Lorsque tout à coup, il s'arrêta, les sourcils froncés.
un char rustique, escorté de mi-carême et de carnaval, venait d'apparaître, attelé d'une solide jument de labour qui, le collier tendu et couverte de sueur, traînait péniblement monsieur et madame Malissé, entre lesquels disparaissait littéralement la soubrette Martine. Ce spectacle grotesque le ramena à la réalité, et tandis qu'un sourire amer plissait ses lèvres, il grommela « Ceux-là peuvent se vanter d'arriver à propos. Ils vont être bien reçus. » Mais les Malissé, qui avaient déjà reconnu le capitaine, descendaient de leur char, décidés à faire malgré tout bonne figure à celui qui leur avait enlevé leur fille. Ajoutons que mi-carême et carnaval, pendant toute la route, n'avaient pas cessé de leur vanter la belle âme de leur chef, de leur affirmer qu'ils trouveraient en lui un gendre tel qu'il n'y en avait pas deux dans le royaume de France et de Navarre, et qu'en sécurité dans ce duché de Savoie, interdit aux soldats et aux gendarmes du roi de France, ils allaient mener une vie de château infiniment agréable. Et voilà pourquoi, à défaut d'un rameau d'olivier à la main, la bonne madame Malissé s'avançait vers Mandrin, la bouche en cœur et le regard plein de mansuétude maternelle. « Capitaine, attaqua-t-elle, j'ai appris toute la vérité, et croyez qu'il ne me reste rien du léger malentendu qui s'est élevé entre nous, faute de se connaître. » Et l'excellente femme, qui avait préparé d'avance tout un petit discours, continuait « Maintenant, je sais qui vous êtes, et ce que vous valez. » Mais elle s'arrêta, toute troublée. Au lieu du gendre empressé qu'elle s'attendait à rencontrer, elle se trouvait en face d'un homme à la mine nettement hostile. Cet accueil réfrigérant lui coupa net la parole. « Et Nicole ? » balbutia-t-elle. « Votre fille ? » répliqua Mandrin. « Elle est partie pour Fontainebleau. »« Pour Fontainebleau ? » répétait Thérèse. « C'est impossible ! » !»« Je vous dis que Nicole est partie, » martela Mandrin, avec un tel accent que madame Malissé en recula d'épouvante, renversant à moitié sous le choc de sa masse imposante la jeune Martine qui était accourue près d'elle. Et Mandrin achevait sur un ton d'ironie. « Il paraît qu'elle est allée retrouver sa cousine, la marquise de Pompadour, pour lui demander, je ne sais trop quoi, ma grâce, m'a-t-on dit ?»« La pauvre petite !» se lamentait Agénor. « Et vous l'avez laissée partir ?» s'exclamait Thérèse, qui non sans peine avait reconquis son aplomb. « C'est à moi que vous osez dire cela ?» menaçait Mandrin. « Mais il me semble assez. Laissez-moi tranquille. Allez où vous voudrez, au diable. Je ne veux plus entendre parler de vous, et si je vous retrouve sur ma route, je vous fais flanquer tous deux dans une oubliette. » Et Mandrin s'éloigna, enfonçant son chapeau sur l'oreille et abandonnant les époux Malissé à leur malheureux sort. À en juger par leur figure bouleversée, leur réflexion était plutôt amère. « Nicole, à Fontainebleau ?» murmurait Thérèse. « Mon Dieu, qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous faire ?» se lamentait le bonhomme. « Eh bien, décidait madame Malissé, partons pour Fontainebleau. Tous les deux ? Tous les trois ?» appuya la commère en désignant Martine. « Quand cela ? Tout de suite ? Mais, bon ami, tu ne songes pas, monsieur Malissé, il s'agit de tenir tête à la destinée qui s'acharne après nous, et non de nous conduire en poule mouillée. Et maintenant, en route ! Bon voyage ! » lancèrent simultanément les deux contrebandiers en se tenant les côtes. Sous la pression vigoureuse de la conductrice, la jument fit demi-tour, et le lourd véhicule, lentement, disparut qu'à un cas dans la direction de la frontière. « Ils ne sont pas encore arrivés, » déclarait mi-carême. « En attendant, » soupira Carnaval, « ils auraient bien pu nous laisser leur servante. »« Tais-toi, passionné !» coupait mi-carême. « Des femmes, chez nous, il n'en faut pas !» Et presque gravement, il ajouta, « J'ai grand peur que cette histoire-là ne porte pas bonheur au capitaine. »